Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Obispo, en espagnol, signifie évêque. Serait-ce la raison pour laquelle Pascal Obispo, artiste infiniment populaire, a toujours chanté l'amour avec une sorte de ferveur mystique ? Je reçois aujourd'hui Pascal Obispo, dont le nouvel album baptisé France a une histoire très singulière qu'il va nous conter, bien sûr, comme il va nous conter son histoire à lui. Bienvenue Pascal.
Merci, bienvenue aussi.
Pascal Obispo, vous confiez, la célébrité, ça s'apprend pas. On est fait pour ou pas. Ça met en désordre tant de choses que ça dans une vie, même si ça donne l'illusion d'un pouvoir.
Alors, l'illusion d'un pouvoir, non, parce qu'on arrive à avoir du pouvoir avec la célébrité, le pouvoir que les gens vont vous donner quand ils vous aperçoivent, évidemment. Mais ouais, ça bouleverse beaucoup de choses, oui. Effectivement, ça bouleverse les rapports, ça bouleverse le rapport à l'autre, quoi. En fait, dans la dernière chanson de Cabrel, une chanson que j'adore qui s'appelle « Les bougies fondues », il dit « si je devais croiser un jour la personne que j'étais avant », Je dirais que ce qui me manque le plus, c'est ce que je pouvais être avant quand j'étais inconnu, en fait. Ça me manque souvent de pouvoir vivre comme un inconnu, en fait. Ça fausse les rapports et moi je suis en vieillissant, évidemment, on attache beaucoup d'importance à la parole. Moi je suis quelqu'un de valeur, je suis quelqu'un qui a une éthique particulière et c'est vrai que la célébrité, ça aide pas les autres, en fait, parce qu'ils se comportent différemment.
Mais voilà, alors vous, la célébrité, vous la vivez depuis presque 30 ans, 24 heures sur 24. Mmh. En fait, est-ce que vous vous souvenez vraiment de ce qu'est une vie normale, sans le regard des autres? Ou ça remonte à trop loin, finalement? Tout est impacté depuis 30 ans.
Tout est impacté. La vie normale, je la vis chez moi, en fait. Je la vis quand je suis au Cap Ferret ou quand je me balade à poil chez moi. Bon, voilà, ça c'est une vie normale. Ce que je ferais si j'étais inconnu, j'irais me baigner à poil dans la mer. Voilà, ce que je fais plus ou plein d'autres choses. Se mettre debout sur une table et gueuler avec un verre dans la main dans un bar, etc. Toutes ces choses-là, c'est fini, c'est terminé. Mmh. Alors que je pourrais encore le faire, puisque j'ai encore l'énergie pour.
Votre père, Max Obispo, était un ancien joueur de foot des Girondins de Bordeaux, devenu ensuite romancier. Donc les effluves de la notoriété, est-ce que c'est avec lui que vous les avez découvertes ?
Ah non, pas du tout, parce qu'il n'était pas du tout célèbre. Il était,
connu.
Non, bon, non. Après, il a fait de la peinture, il exposait un petit peu à Arcachon, mais non, ça n'a jamais été quelqu'un de connu. Il était connu aux Girondins de Bordeaux parce que c'était un ancien qui organisait des choses autour des anciens Girondins de Bordeaux. Mais sinon, non, c'est la personne connue de la famille, c'est moi. Malheureusement, j'aurais bien partagé ça.
Je revendique.
Non, mais j'aurais bien partagé ça avec plein de personnes de ma famille, hein, ça m'aurait allégé. Voilà.
Pascal Obispo, la géographie compte souvent dans la construction d'un destin. Vous avez 13 ans quand vos parents divorcent et votre maman, qui est à votre garde, décide d'aller vivre dans la ville la plus rock de France, la ville de Rennes, où sévit à l'époque le groupe mythique Marquis de Sade. Il s'est passé pour vous à Rennes des choses qui n'auraient pas pu se passer ailleurs.
Absolument, c'était une ville... j'allais dire faite pour moi, mais pour celui que je suis devenu, pour les adolescents de l'époque, c'était une ville rock et à l'époque, bon, c'était pas le rap, c'était le rock, donc on a plongé dedans. Je suis arrivé, j'avais 13 ans, on était en 78, période post-punk, donc on a voulu monter des groupes. 3 ans après, j'avais un groupe, j'ai fait les premières parties de Killing Joke, de Mark Zuckerberg, des Pogues, enfin de voilà.
Vous étiez bassiste,
j'étais guitariste, bassiste, j'ai fait un peu
de New Wave.
Ouais, c'est ça, oui, c'était un peu... Bon, heureusement qu'on n'a rien pour écouter, parce que ce serait difficile pour moi aujourd'hui. J'ai tellement fait de grands écarts. Mais en même temps...
Mais alors pourquoi vous l'avez fait, justement, ce grand écart? Certains sont restés comme ça dans des niches musicales. Alors, vous étiez New Wave.
Parce que je suis éclectique, j'aime toute la musique. J'aime aussi bien la chanson française que le jazz, que le flamenco, que la variété, que le rock, que le métal. Moi, j'ai absolument aucun problème. Donc, je suis arrivé à Rennes et c'est peut-être la force que j'avais. C'est que je suis pas resté dans une communauté spéciale. Moi, j'écoutais à l'époque aussi bien Bauhaus, Joy Division que
Cure.
Axel Bauer. Non, mais que des chanteurs
oui,
français.
Oui, bien sûr. Mais par exemple, Cure, c'était un groupe New Wave plutôt gothique,
ouais,
incroyablement
ça.
Célèbre dans les années 80 tout autour de la planète. Vous avez fait le mur pour aller les voir en répétition, ado?
Alors non, j'ai fait le mur pour aller voir Simple Minds quand j'étais en pension. Et le professeur, le lendemain, m'a mis une colle et m'a interdit de repartir. Donc j'étais puni un week-end parce qu'il m'a vu... dans le reportage FR3 le lendemain.
Ah,
c'est un peu moche. J'étais au premier rang. C'est pas mal. Et Cure, on les a vus après un entraînement de basket. On est passé par derrière une boîte. Bref, la salle de basket donnait sur une cour qui donnait sur l'arrière boutique de la salle où ils répétaient, l'espace à Rennes.
Et là, vous avez été hypnotisé.
Et on est rentré. On a vu les trois. Tollhurst, Gallup et Robert Smith, et puis on s'est dit on devrait peut-être aller se changer, peut-être enlever les shorts et faire de la musique, voilà, de ma vie. Et c'est tout a démarré à Rennes, mais peut-être que ça avait démarré avec les émissions de Marie Gilbert Carpentier où vous étiez, mais parce que quand j'étais petit, vraiment on était scotché à tous les top A, les numéro 1, donc en fait je crois que je les ai tous vus quand j'étais petit, puisque ma famille adorait ces émissions. Et voilà, je vous ai vu en short danser avec votre petit chouchou dans la tête. Mais je me souviens très bien de tout ça. Et en fait, ça m'a marqué. Et je crois que quand je suis arrivé à Rennes, je pense que inconsciemment, j'ai refusé de me couper de l'ADN musical qui était aussi en moi, c'est-à-dire le côté la chanson française, variété, paillettes. Et ce que j'ai reproduit après, donc en fait, il a été très facile pour moi de basculer dans de la chanson française, voire faire de temps en temps de la variété, etc.
Puisque vous étiez infusé par mille choses.
Et à un moment donné, j'ai mélangé, et ça a donné Fan.
Mais alors, je voudrais vraiment savoir comment on lâche la basse pour le micro. Parce que là, soudain, on passe devant. Là, on est sur le devant de la scène, on prend la lumière frontalement, les musicos joue derrière. Donc c'était une envie de reconnaissance, une envie...
Ouais, c'est pas ça en fait.
Alors,
ils n'ont jamais joué derrière, mes musiciens.
Bon, ils ont joué autour. Ils ont joué vos côtés.
Ouais, mais c'est important. Moi, je...
N'empêche que c'est vous qui teniez le micro et qui étiez le soliste.
Ils étaient sur la même ligne que moi devant. J'ai toujours détesté l'idée d'être devant, parce que moi j'ai toujours intégré un groupe. J'ai toujours eu envie de développer cette idée de groupe. Après, j'ai chanté, j'ai chanté par hasard. Bon, c'est comme ça. Et puis après, j'y ai pris goût, mais j'ai toujours eu plutôt pas mal de recul. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis déguisé. J'ai toujours aimé incarner des personnages ou transmettre et être dans la transmission. Ce que je fais aussi bien quand je fais mon clip Fan avec tous ces artistes que j'interprète, que lorsque je chante des chansons de Paul Naref ou que je refais les chansons que j'ai écrites pour France Gall. C'est exactement la même chose. Moi, je ne coupe pas le cordon. Si j'existe, c'est d'être fan, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et nullement parce que j'ai inventé une
être
note
fan.
Ou quoi que ce soit.
Voilà. Alors, je continue de dérouler le fil. Votre signature musicale, Pascal Obispo, vous l'avez trouvée très vite, en 94. Sort, je résume, Tombé pour elle, bon, avec une voix et des harmoniques n'auraient pas renié Paul Naref. Et puis en 96, sort Lucie, qui vous donne soudain, alors là, une autre stature, une autre dimension. Lucie, que vous avez composée, mais dont le texte est signé Lionel Florence, c'est vraiment la chanson qui a bouleversé votre carrière. C'était le tremplin absolu, Lucie, tout à coup.
Alors,
ça devient l'hymne à l'amour contemporain.
Techniquement, c'était le tremplin, puisque le lendemain, on a multiplié les places dans les salles. Il a fallu changer de taille de salle, puisqu'on est passé des théâtres au Zénith. Et non, ce qui était amusant, c'est que c'est une chanson qui est arrivée par hasard, et parce que je suis quelqu'un qui dit non, comme dans la chanson « Je ne sais pas danser » sur l'album France. C'est-à-dire, j'avais refusé de chanter mon single et parce que ma maison disque voulait que je chante mon single, tous les mecs qui étaient nommés devaient chanter leur single, et moi j'ai dit non, je ne chanterai pas mon single, je fais ce que je veux, donc donnez-moi un piano et je ne fais pas ça. Donc, contre l'avis de tout le monde, on m'a donné un piano et j'ai chanté cette chanson qui était une phase...
Qu'est-ce que c'est bon parfois, d'être contre l'avis de tout le monde.
Ah, c'est pas
de
parfois, c'est ma qualité
credo,
principale.
C'est vrai.
Ah oui, j'adore. Mais en fait, c'est pas que je suis contre les gens, c'est eux qui sont contre l'idée qu'on peut changer les choses et qu'on peut être différent. Moi, je suis pour justement l'expérience, expérience, je suis un inventeur, je fais des expériences sans arrêt. Ça, c'était une expérience, elle a marché, elle a bien marché. Il y a des moments où j'ai fait des expériences qui n'ont pas du tout fonctionné, mais c'est comme ça. Mais je préfère être dans l'expérience, dans la nouveauté. Je préfère mettre ma main sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, ma main dans une boîte sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, comme dans Dune, par exemple. C'est magnifique. Voilà, et puis... je déteste la routine, ça m'emmerde profondément la routine.
Mais alors là, ouais. J'assure aux auditeurs qu'il le dit avec dans la prunelle, vraiment effectivement non. Une détermination, une conviction sans appel. Bon, on fait une pause très courte. On retrouve tout de suite Pascal Obispo.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il est l'homme qui a composé Lucie, l'homme qui a composé Allumer le feu, ou encore L'envie d'aimer. Avec cette note, en fait, il compose des sortilèges. Voilà, comme les chansons d'ailleurs du nouvel album baptisé France. Premier album physique après 15 albums digitaux. Vous l'avez compris, je reçois Pascal Obispo. Avant de plonger dans l'histoire de l'album, juste cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit beaucoup plus de chansons pour les autres que pour soi lorsqu'on est comme vous, un interprète ?
Quand on se sent beaucoup plus compositeur qu'interprète.
Tout simplement.
Depuis le début, depuis la première signature en maison de disque avec Sony Music, mon premier album. J'ai prévenu juste avant de signer que je n'étais là que pour écrire des chansons pour les autres. Et si je faisais cet album, c'était pour me faire connaître en tant que compositeur.
Incroyable. Bon, compositeur, vous avez failli l'être pour France Gall. Allez, on repart 24 ans en arrière, je plante le décor. Vous êtes assis devant le piano de Michel Berger, dans l'appartement de France. Le moment est chargé en émotion car le patron de la maison de disques de France souhaite absolument qu'elle chante à nouveau. Et il a pensé à vous pour lui façonner un album dans la veine de ce que lui écrivait Michel Berger, qui est mort 5 ans plus tôt. Alors vous prenez votre respiration, vous mettez à jouer des chansons qui toutes sont des tubes en devenir, mais France... de sa petite voix flûtée et têtue, va toutes les refuser en vous assénant une étrange formule.
Ben, j'ai simplement chanté Sa raison d'être et chanté, deux chansons qui ont connu après beaucoup de succès. Et France s'approche du piano et me dit « Oui, c'est Michel, mais c'est pas Michel ». Donc elle me fait le plus beau compliment qu'on puisse faire à un compositeur, c'est-à-dire de s'être mis dans la peau d'un autre compositeur pour lui proposer des nouvelles chansons. Après, le projet ne vit pas le jour parce qu'elle avait décidé d'arrêter de chanter. Voilà, donc je me suis retrouvé avec toutes ces chansons.
Mais alors vous allez un petit peu vite en besogne là, parce que
ouais,
en fait
vite,
vous dites elle avait décidé d'arrêter de chanter avant même de vous entendre les
oui,
jouer.
C'est ce qu'on
en fait,
c'est ce qu'on m'avait dit.
Elle n'a pas refusé vos chansons, elle a refusé d'être artistiquement infidèle à Michel Berger. On va dire que cette phrase justement, c'est Michel, mais c'est pas Michel. France Gall l'a prononcée quand on déclare un amour éternel à celui que personne ne va remplacer.
C'est magnifique, c'est
bah
fantastique.
Oui.
Donc en fait on peut pas prendre ça comme une déception, comme quelque chose de négatif, au contraire. C'est dans cette phrase, il y avait tout, il y avait la reconnaissance et le respect de mon travail de compositeur. Cette façon d'avoir un peu habillé mes chansons et essayer de me coller le plus possible à cet univers. Et aussi donc cette déclaration d'amour éternel comme... vous dites.
Alors Pascal Obispo, à la même époque, vous composiez l'album de Johnny et curieusement, vous avouez que imaginer un album pour France Gall, c'était un défi qui vous faisait en réalité beaucoup plus peur que de composer pour Johnny. Pourquoi ?
Parce que Johnny n'était incarné par aucun compositeur. Alors que France était incarné par Michel Berger, j'avais beaucoup de respect, notamment parce qu'il avait fait aussi l'album de Johnny, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur l'album de Johnny, que j'ai dû faire en 15 jours, juste au passage. Avant, il y a eu Tennessee, et puis il y a eu l'album de Jean-Jacques. Moi, je voulais m'inscrire comme un jeune loup un peu trop pressé. Et puis, voilà, c'est ça l'histoire. Le truc, c'est qu'il y avait le spectre de Michel Berger, que je connaissais peu en fait quand je faisais du rock à l'époque, j'entendais oui. beaucoup, mais quand je me suis plongé en devenant le compositeur que j'ai choisi d'être, j'ai vraiment écouté beaucoup et il m'a beaucoup inspiré dans sa façon de faire, d'écrire des chansons, voilà.
On chante comment, dans un contexte pareil, quand il y a une telle pression de la part de Louis Calabrèse, patron d'une maison de disques, qui espère vraiment que France va se laisser convaincre, elle qui est réticente, elle sait qu'elle dira non, mais elle vous écoute. Vous avez une grille de lecture particulière dans ce contexte-là ?
C'est vrai que c'est assez spécial. Je me souviens bien de ce moment où j'étais... C'est vrai que j'étais un petit peu stressé après... Bon, à cette époque, j'étais dans un TGV à grande vitesse, je voyais pas grand-chose, donc tout fonctionnait, voilà, donc je pense que j'y suis allé, et puis honnêtement, comme je savais qu'elle avait arrêté, je me disais, bon, j'ai rien à perdre, et puis voilà, c'est comme ça.
Alors, Pascal Obispo, ces chansons, elles se sont toutes dispersées, les chansons que vous avez présentées ce soir là chez toutes. France Gall, voilà, mais elles ont existé très très fort, par exemple dans votre comédie musicale Les Dix Commandements, ou encore avec Natacha Saint-Pierre ou Patricia Cass. J'aimerais savoir pourquoi, aujourd'hui, vous avez tenu à les réunir en les interprétant, donc 24 ans plus tard, dans un album intitulé, sobrement, France.
Parce qu'en fait... Je me suis vraiment plongé dans la chanson française depuis quelques temps et depuis que je travaille sur cette application. Je travaille beaucoup sur des covers. Je reprends tous les vendredis une chanson nouvelle qui sort. Donc j'ai fait, comme vous savez, 15 albums sur cette application.
Alors l'application, faut préciser,
Obispo All Access.
Voilà. Disponible via Google Play, Apple Store, et on va justement en parler tout à l'heure parce que c'est un concept assez culotté.
Donc en fait, voilà, donc en travaillant sur les chansons, j'ai fouillé dans mes archives et puis je suis retombé sur ces chansons. En fait, quand j'ai lancé l'application, j'ai fait une chanson qui s'appelle Ma Génération.
Ouais.
Dans Ma Génération, je commence, les uns dansaient contre les uns, les autres n'avaient pas peur des autres. Ok, je fais un hommage et tout, et puis un attaché de presse, elle me dit non, ça ressemble un peu à une chanson de Michel Berger. Et je lui dis oui, c'est Michel, mais c'est pas Michel. Elle me dit pourquoi tu dis ça, c'est Michel Spencer. Et donc je lui raconte l'histoire. Et en lui racontant l'histoire, je lui dis écoute, viens, je vais te faire écouter les chansons, les maquettes, comme on s'était avant. Et en fait, je réécoute les chansons et je retrouve sa raison d'être. Je retrouve il est celui que je voulais, que dans une version totalement différente qui atterrit sur les 10 commandements ensuite. Et puis et on se dit avec mon camarade Yuri Benaïs qui travaille avec moi au studio, je dis bah tiens, pour l'application, on devrait donc pour tous ces abonnés, ces milliers d'abonnés, on devrait faire un album. Allez, on n'a qu'à reprendre le son des années 80 de l'album Beau Séjour au Paris France.
Avec les bonnes basses de Yannick Top.
Exactement, qui n'a pas joué, mais voilà, c'est Abdelaziz Sadki qui l'a fait. Mais je voulais refaire un album, mais vraiment comme si c'était l'album de France Gall juste après Paris France. J'ai dit, on va faire ça, on va s'amuser, ça va amuser les gens et tout. Et donc j'ai retrouvé des inédits aussi. Donc on a concocté tout cet album et en le faisant, je me dis mais en fait...
On l'appelle comment ?
Ouais, pas que ça, mais on s'est dit mais c'est recevable. Je trouve que cet album est recevable, on pourrait le sortir. Ça pourrait être ça d'ailleurs, l'album physique à sortir, puisque j'avais dit que je ferais un album physique. Donc au bout de 15 albums digitaux, je sors un 25e album qui est mon premier album physique depuis le 11e ou 10e, je crois, enfin un truc comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement.
Après avoir écouté ces chansons-là, France Gall n'a plus jamais enregistré aucune chanson. Et vous dites... Je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu. Pendant 20 ans, vous n'êtes jamais recroisé.
Non.
C'est étonnant.
Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est la vie, c'est pas grave. C'est comme ça. Peut-être que je me suis rapproché trop près. Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il appréciait mes chansons ou pas. Je ne suis au courant de rien, en fait. Je ne connais pas. Je ne la connais pas, en fait. Je ne la connaissais pas. Moi, tout ce que je connais, c'est des chansons que je chante.
Ce que Michel Berger a façonné. Exactement. Autour d'elle.
Ouais, puis
c'est-à-dire par le certissage musical de Michel Berger.
Uniquement les chansons. Et je me suis fait mon idée. Et quand je l'ai rencontré, ça n'a pas duré assez de temps pour que j'aie une opinion positive ou négative. J'ai juste passé un moment absolument délicieux. Et c'est ce que je garde de France. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cet album, raconter une autre histoire. Ce que j'avais vécu, un moment doux, fort, qui m'a pris un peu de temps pour composer, mais en fait pas tant que ça. Et je voulais raconter une histoire. C'est vrai, quand on fait des albums, on raconte l'histoire des chansons, etc. Là, c'est plus que des chansons, c'est carrément
un moment
une rencontre, un moment de vie, et avec justement. C'est cette capacité de retransformer à rebrousse poil, quoi. Enfin, comme dans une machine à remonter le temps, ben, on a refaçonné les chansons comme elles devaient être. Et ça, je crois que ça n'a jamais existé.
Et vous savez quoi ? On écoute. À qui dire qu'on est seul ?
dis-moi. Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Qui t'a fait souffrir? Parle-moi, vie de ton cœur. Moi aussi j'en suis passé par là. Je connais ça. Quand on ne peut plus se taire, quand on sait plus quoi faire, à qui dire qu'on a mal, quand on peut plus s'enfuir, qu'on sait plus comment vivre, à qui dire qu'on est seul, qu'on est seul, qu'on est seul.
À qui dire qu'on est seul, c'était Pascal Obispo qu'on retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le nouvel album Physique de Pascal Obispo a pour titre France. Et l'appli qui va permettre à tous de se connecter à son univers a pour nom Obispo All Access et est disponible via l'Apple Store et Google Play. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, Pascal Obispo, à l'instant on évoquait les voix d'anthologie pour lesquelles vous avez façonné des tubes. Eh ben, il en est une de voix, celle qui peut-être, celle qui sans doute appartient à la star la plus mythique et secrète qui soit. Une voix donc que vous avez emprisonnée sur un album qui dort depuis des années dans vos tiroirs. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Cet album, vous l'avez fait pour Isabelle Adjani. Il existe l'album, mais il n'est jamais sorti. Mais comment est-ce possible?
Soyez pas trop pressés, ça vient là.
Non. Ouais. Mais dites-nous davantage.
Quoi, non.
Mais si.
Bah, on peut pas dire davantage. Voilà. Mais c'est une très bonne nouvelle.
Bah alors voyez, je suis inspirée. Mon petit ordinateur de bord perso me disait que Quand même, j'étais intriguée par ça.
Bah, c'est un petit peu comme France. Moi, je suis en train de... Voilà, je déteste les symphonies inachevées. Je trouve ça un peu scandaleux, même, de l'avoir commencé. De les avoir commencées. Non, non, je suis pour finir le travail.
Voilà, puis vous dites une symphonie inachevée, parce que quand même, la voix d'Adjani posée sur des chansons, vous avez dû sertir comme des bijoux, ça ressemble à une œuvre.
Ça ressemble
Donc il lui était dommage, n'est-ce pas, de la laisser dans un tiroir.
C'est comme une bande originale de film avec sa voix, et c'est vraiment sans doute une des choses les plus belles qu'on ait jamais fait, enfin, mes musiciens et moi, et le travail qu'on est en train de faire, c'est...
Mais alors dis donc, c'est du long cours, parce que l'aventure a démarré il y a combien d'années ?
15.
Non, 15 ans. Et on pourra écouter l'album, donc, façonné autour d'Adjani dans combien de temps ?
Je ne sais pas. Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de polir le diamant.
De polir le diamant. Comme je suis une vilaine curieuse, quand même une dernière question sur ce sujet. Vous avez reçu un signe d'Isabelle ou c'est vous qui lui avez envoyé un signe pour cet album ?
Non, ce sont des choses continues. On communique et puis voilà. Je pense qu'il y a eu une envie mutuelle des deux côtés. Ça s'est trouvé comme ça et puis on s'est même posé la question pourquoi finalement on n'avait pas retravaillé plus tôt. Donc écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, hein. J'espère que ça va se passer.
C'est un très joli teasing.
La dernière fois, j'en ai parlé, et bon...
Ça s'est arrêté pendant 10 ans, c'est ça ?
Ouais, non mais ça s'est arrêté, et puis là, je n'ai pas envie d'en reparler, ça ne se fait pas, bon, donc j'en reparle pas.
Bon, voilà, on se reverra pour justement la sortie de l'album.
J'espère.
Alors Pascal Obispo, vous dites, les choses qui ont le moins fonctionné dans ma carrière sont bizarrement celles que je préfère, par exemple... J'adore le personnage de Captain Samurai Flower, mais il a été mal compris. Qu'est-ce que le public a mal compris ?
Je pense que c'est les médias d'abord qui n'ont pas compris ma vision sur la protection de la planète et sur sur l'environnement, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'étais déjà très en retard.
Oui, vous étiez en fait très en avance.
Non, j'étais très en retard déjà.
Mais vous étiez très en avance par rapport aux médias.
Oui, mais enfin, moi, je suis un artiste. Hein. Je suis pas là pour faire de l'information. Je suis là pour tisser des correspondances. Et j'avais l'impression que c'était important de parler aux enfants de ce qui se passe d'une manière un petit peu plus ludique, parce que tout ce qu'on nous dit, il y a un côté. Il y a un côté dur, froid,
anxiogène,
etc.
Et
je trouvais qu'avec avec un personnage, on pouvait, au niveau de l'éducation, on pouvait insuffler des choses intéressantes. Mais bon, maintenant, c'était en 2009, donc ces enfants-là sont beaucoup plus grands. C'est dommage. Mais non, on avait bien bossé. Oui, on va dire que j'étais un peu avant-gardiste. Oui, bon, ça me dérange pas.
Vous me dites souvent non, hein. Et puis finalement...
Non, mais disons que oui, quand je vois les chansons, quand j'entends certaines chansons, des couvertures de magazines où tout d'un coup on voit des artistes qui tout d'un coup
découvrent l'écologie,
revendiquent la nature, je leur dis merci, je leur dis tant mieux, voilà, je leur dis bravo. Mais c'est vrai que le papa, il s'appelle Capitaine Samurai Flower.
Voilà, alors Capitaine Samurai Flower, quel joli pseudo. Prince avait changé de nom en fait pour se faire appeler à un moment donné de sa carrière Love Symbol.
Pas pour les mêmes raisons.
Mais bon, Pascal Obispo pouvait bien se rebaptiser Capitaine Samurai Flower. Hein.
Oui, non, mais je n'avais pas changé de nom. C'était un personnage que j'incarnais, comme j'aurais pu incarner, Gandhi ou Nelson Mandela, peu importe. Enfin, en tout cas, c'était un spectacle où un personnage revendiquait le fait qu'il allait planter des drapeaux sur les endroits de la planète à protéger, c'est-à-dire tous. Hein. Mais c'est comme ça, avec des dessins de Marc Maggiore, qui entre-temps est devenu une star aux États-Unis dans la peinture, puisqu'il fait il dessine des cow-boys, des Indiens dans le Far West là-bas, et il cartonne vraiment avec ses peintures, et je suis très très heureux pour lui. Voilà, donc si vous voulez aller voir, il s'appelle Marc Maggiore.
Très bien, on ira tous voir après l'émission. Alors, parlons comédie musicale, Pascal Obispo. Vous en avez signé 3 dans votre carrière. Les 10 commandements qui ont attiré... Alors, j'ai vérifié, c'est absolument faramineux. Près de 2 millions de spectateurs reprenant en chœur l'envie d'aimer. Il y a eu Adam et Ève, qui n'a pas exactement eu le même retentissement.
Ah non, ça c'est le contraire.
Voilà. Et puis, il y a eu Jésus de Nazareth à Jérusalem, car vous vouliez absolument célébrer, j'aime bien la formule, le bénévole le plus connu de l'histoire du monde.
Ouais, c'est ça.
Et ce spectacle fut un vrai succès. Et vous êtes parti en tournée avec. Mais est-ce que l'engouement du début des années 2000 pour les comédies musicales existe encore?
Écoutez, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait des comédies musicales qui reprenaient là. Écoutez, moi j'espère, parce que je trouve intéressant cette façon d'envisager le spectacle. Après ça dépend aussi des sujets, ça dépend du contexte. Bon, Adam et Ève, c'était un contexte difficile parce qu'on était juste avant les élections, il faisait un froid pas possible. Et puis j'ai vraiment pas été aidé, et puis le truc a pas été compris. C'était un sujet toujours un peu visionnaire, parce que si vous reprenez l'histoire d'Adam et Ève telle que je l'ai écrit, à l'époque, en 2011, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, voilà, mais ça ne me dérange pas, mais peut-être qu'un jour on le ressortira et on comprendra ce que je voulais dire.
Je vais vous appeler le visionnaire.
C'était la séparation des deux mondes, un monde qui ne vit que par l'argent et le trading. Donc c'était géré par un mec qui s'appelait Solus. D'ailleurs, j'avais inventé une monnaie nouvelle.
Big Brother.
Et de l'autre côté, il y avait un monde qui vivait de l'autre côté, avec que des produits de récupération, où vivait Ève. Voilà, j'ai adoré ce spectacle.
Et finalement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous avez toujours une tendresse infinie pour ce qui, dans votre carrière, a le moins fonctionné. Parce que je vous parle des trois comédies musicales, ouais. Les deux autres ont été d'immenses succès,
va,
et vous
ouais.
me parlez de celle qui n'a pas franchement
Mais
marché.
Parce qu'on ne réfléchit pas quand on a du succès.
Mais beaucoup quand on en a.
Le succès ne porte pas à la réflexion. Le succès est presque logique quand on travaille beaucoup, et alors que l'échec, alors vraiment là, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, ça me nourrit. Tous mes échecs m'ont nourri énormément.
Alors, entre ces trois comédies musicales, il y a un fil rouge qui est vraiment évident, qui nous interroge sur la possibilité ou non de l'amour entre les hommes, sur la question du religieux. J'aimerais bien savoir de quelle façon on compose des musiques quand il s'agit de faire chanter Jésus.
D'abord, on se plonge dans un univers qui pourrait correspondre. A priori, les musiques de Gladiator, du film avec Russell Crowe, correspondaient ouais. plutôt pas mal dans cette espèce de climat un peu mésopotamien là. Donc j'ai écouté beaucoup, j'ai écouté un peu Hans Zimmer, j'ai écouté
replongé, chants araméens.
Ah oui bien sûr. Ah,
pour la première fois.
Oui, bien sûr, il a fallu que j'y aille. De toute façon, à chaque fois que je travaille pour soit une œuvre ou soit un artiste, je me plonge littéralement dans des bouquins, dans de la musique, et j'essaie de m'intégrer et d'adopter presque une nouvelle façon de vivre en fait et de penser.
La reine de The Voice All Stars, Anne-Sylla, était votre mari
ouais.
dans Jésus, une mari absolument incandescente, prodigieuse.
Fantastique, fantastique. Quel moment quand elle était sous les croix en train de chanter l'adieu à son fils cloué. Bon, on voyait pas, ils étaient de dos. Enfin, on avait fait tout un système pour pas voir, parce que bon, la mise en scène de Baratier était vraiment vraiment très très élégante et très intelligente. J'adore Christophe, mais c'est vrai que quand Anne-Sylla chantait, c'était la folie. Donc ça ne m'étonne pas ce qui se passe autour d'elle. Après, voilà, c'est ce qui est la difficulté de notre métier, c'est d'être accepté par rapport aussi à ce qu'on fait et à notre correspondance musicale. Donc il faut qu'elle trouve le lien entre ce qu'elle aime et ce que les gens aussi ont envie d'entendre, attendent d'elle ou attendent tout simplement. Donc c'est toujours la difficulté, et c'est là qu'intervient la part de magie et de chance.
Bien sûr.
Voilà.
Et ce sont des paramètres importants, hélas. Juste cette question, avant de faire une petite pause, Pascal Obispo. Lorsque le fantôme du Covid aura définitivement disparu et que le spectacle dit vivant sera redevenu bien vivant, vous replongerez à nouveau dans l'aventure d'une comédie musicale ? Pas. J'entends
compliqué.
Non.
C'est compliqué, ouais. C'est ouais. compliqué. Ah, j'ai fait trois gros trucs là. Ça prend beaucoup de temps. Et je préfère me plonger dans
repartir en tournée, par exemple.
Ah, Ça, je repars en tournée. Mais je suis en train de travailler sur l'application. On est en train de travailler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Là, j'ai lancé 10 albums différents. Il y en a 7 qui ne sont pas encore sortis. Je travaille beaucoup. C'est même pas un travail, puisque je suis très heureux de bosser avec tous ces artistes, tous ces musiciens qui viennent apporter leur talent et leur savoir sur toutes les idées que je peux avoir. Donc, je crois que, voilà, avant de repartir tourner ou faire une comédie musicale, je vais d'abord travailler et ne pas travailler donc sur tous ces albums.
On retrouve tout de suite Pascal Obispo avec qui on se balade cet après-midi sur Europe 1. Et franchement, c'était pas tant.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Pascal Obispo, l'idée germait, paraît-il, dans votre tête depuis 5 ans. Encore fallait-il oser l'appliquer. Alors vous avez donc surpris tout le monde en début d'année en annonçant la création de votre appli Obispo All Access, qui est disponible via l'Apple Store et Google Play, et en disparaissant, j'ai envie de dire, en même temps des plateformes de streaming comme par exemple Spotify ou Deezer, où on trouve tous les artistes. Alors, je précise quand même que le nouvel album France, lui, c'est un album physique qu'on va trouver bien sûr dans tous les rayons de CD. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez précisément le principe de cette appli qui fait que tout le monde dans le métier dit de vous « bon sang, il a du culot
». En fait, le problème, c'est que si le métier fonctionne de manière industrielle avec pour seul objectif de rapporter de l'argent et des bénéfices, c'est sûr que je ne peux pas les suivre. Parce que pour moi, mon objectif, c'est d'abord de me faire plaisir et aussi d'être libre. Donc la liberté pour un artiste, c'est le maître mot de la création. En fabriquant cette application, je me suis rendu compte que j'étais capable et qu'il y avait tout un univers de possibles dans la musique, autre que simplement faire un album tous les 2 ans ou 3 ans. Après, chacun son rythme. Chacun fait ce qu'il veut.
C'est-à-dire que cette appli va casser les codes, en fait, et le timing, les rituels des maisons de disques.
Non, je ne casse rien du tout dans les maisons de disques, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un album à mettre sur l'application demain ou une chanson comme ça, par hasard, je le fais. Je n'ai pas de contraintes de tempo, je n'ai pas de contraintes de style. J'ai envie de me faire plaisir. Et je pense que ce que recherchent les gens, c'est justement de pouvoir être libre et de pouvoir ressentir du plaisir. Plus quelqu'un est libre et désinhibé, et plus il est attractif. Et à tous les niveaux. Moi, ma liberté, elle fait se poser des questions à pas mal de gens dans ce métier. Mais je peux leur répondre simplement que voilà, c'est un choix. Je suis mon propre mécène. J'ai travaillé beaucoup pour ça. J'ai fait toute une tournée qui m'a rapporté des sous et tous ces sous, je les mets dans cette application.
Vous les avez investis voilà, dans Obispo All Access.
Et je paye des musiciens. Je veux juste préciser que pourquoi on fait un abonnement, parce que je pourrais faire tout gratuit.
Oui, alors on précise. Un abonnement mensuel de 5,99 €, c'est-à-dire que si on multiplie par 12, c'est la place de concert.
C'est une place de concert, voilà, par an, tout simplement.
Et on est connecté à l'intégralité de l'univers d'Obispo avec des propositions que les maisons de disques traditionnelles ne font pas.
Bah non, c'est oui, parce qu'il y a une recherche de rentabilité. Moi, il n'y a pas de recherche de rentabilité, il y a juste une recherche du plaisir. Donc c'est totalement différent. C'est un plaisir dans l'éclectisme. Voilà, je fabrique des albums de jazz, de flamenco, je fais de la méditation, je fais des rencontres, je fais des séries, il y a des dessins animés, et puis il y a des chansons tous les vendredis. Et
vous
puis,
faites
et
des
puis,
séries, c'est-à-dire ?
Il y a des séries, il y a une série qui s'appelle Obispologie, comme sur Netflix, mais c'est sur mon application, une série de 7 heures, de 14 épisodes de 30 minutes sur tout ce que j'ai fait. Il y a une série sur le live, où on parle du live, une série de 10 épisodes. Il y a des séries de rencontres qui s'appellent Correspondance, où j'ai des artistes qui viennent parler avec moi, comme ici, mais pendant 30 minutes, et on parle, enfin 30 à 40 minutes. Le dernier, Axel Bauer, on a fait 1h20, non, il va falloir que je fasse 2 épisodes. Mais on parle de la musique, on rentre en profondeur dans la musique. J'ai déjà eu Gaëtan Roussel, Benabar, Cali, Biolay, Frégé, Axel Bauer, Gauvin Serre.
Extraordinaire.
Et donc on passe un moment, on s'assoit et puis il n'y a rien d'autre qu'une seule caméra qui tourne et puis on parle simplement entre potes quoi. Et je trouve ça, voilà, il n'y a pas de...
Réunis par une même passion. Mais alors, je précise bien, effectivement, Obispo All Access.
Et la musique aussi, beaucoup de musique.
Bien sûr, c'est autant un défi artistique qu'un défi technologique, car pour assurer le contenu de cette appli, qui est donc sans cesse renouvelée, vous avez fait appel, paraît-il, à peu près 80 personnes, dont des ingénieurs en informatique, en plus des artistes. Vous êtes le premier en France à oser ce pari risqué. Est-ce qu'il y a des artistes, Pascal Obispo, en Amérique ou en Angleterre, qui se sont comme ça complètement affranchis des maisons de disques et des plateformes de streaming pour reprendre les cartes en main?
En fait, je pense qu'ils gagnent tellement d'argent qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas réfléchi à ça. Voilà, donc ils sont pas là-dedans. Et je pense qu'ils sont dans un autre, dans d'autres combats peut-être, je suppose. Mais si par exemple des gens comme Jay-Z, plutôt que d'ouvrir une plateforme générale avec plein d'artistes, l'avaient fait tout seul, je pense que ce serait, ça cartonnerait. Ou Drake, par exemple. Moi, je suis sûr, demain, Jay-Z et Beyoncé, ils montent leur propre plateforme, mais ils cartonnent grave. Mais Prince l'aurait fait aujourd'hui, de toute façon. Il l'aurait fait, puisqu'il paraît qu'il y a 6000 titres donc, qui sont pas sortis. Les gens qui passent leur vie en studio, ne sont pas aptes à vivre...
Ce ne sont pas forcément des hommes d'affaires.
D'abord, ce que je ne suis pas d'ailleurs, puisque je suis en déficit permanent, mais on n'est pas apte à rester dans ce système, puisque ce système nous impose un tempo, nous impose un rythme, nous impose même presque un style à respecter, et même un nom. Si demain j'ai envie de m'appeler Paul, je m'appelle Paul si je veux, je fais ce que je veux en fait. Pourquoi il faudrait limiter, castrer les artistes? L'artiste fait rêver. L'artiste nous propose des voyages, un rêve. Ça passe par un roman, une sculpture, une peinture. Nous propose de voir la lumière dans le noir comme Soulage. Nous propose d'apprécier un baiser fleuri comme Klimt. Nous propose, je sais pas, d'apprécier des courbes de Robin. Nous propose plein de choses. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide du voyage. Et on n'a pas à se faire dicter. Ni la direction, ni comment on va voyager, et ni à quel rythme.
Alors, moi
je refuse ça. Même si aujourd'hui, je sors un album physique, et j'ai aussi ce pied dans le physique, et je m'aperçois à quel point je marche lentement, très, très, très lentement. Dans mon application, on va vite, on propose des choses, ça bouge, c'est une fourmilière, il y a plein d'idées, plein de musiciens, on est heureux. Et en plus, grâce à ça, et grâce aux abonnements, ils peuvent vivre parce qu'ils remplissent aussi leur frigo, parce qu'ils sont rémunérés. Il ne faut pas oublier qu'un album, ça coûte des sous.
Mais oui, et alors j'ai appris une chose absolument incroyable, parce que bon, on sait que les albums physiques ont pratiquement, on le constate, disparu. On écoute tous la musique sur Spotify ou Deezer, mais ces plateformes de streaming, j'ai appris qu'elles n'avaient jamais négocié directement avec les artistes. Jamais.
Ah, ça c'est sûr. ça c'est sûr, ça s'est fait entre maisons.
Voilà, question qui fâche.
Alors moi je suis abonné à Spotify, oui, par exemple. Bon, moi je fais mes playlists et tout, d'ailleurs ça m'aide beaucoup pour concevoir des albums, etc. Donc évidemment c'est fantastique comme invention. Après les rémunérations, c'est vrai que ça a été fixé entre maisons disques et les plateformes. Hein. Il n'y a eu aucun syndicat d'artistes qui s'est mis au milieu pour tout d'un coup défendre l'intérêt des artistes anciens ou émergents. Ça s'est passé comme ça. Et le problème est là. Aujourd'hui, c'est que les maisons disques continuent à très 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 bien vivre grâce au streaming. Mais bizarrement, les artistes, ils vendent plus de disques physiques et le streaming n'est pas rémunéré pareil. Donc, on assiste à une forme de dichotomie, quoi. C'est-à-dire que, et puis un énorme décalage, la maison disque continue et les artistes ne peuvent pas vivre. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent et qui mériteraient. Après, il y en a beaucoup plus qu'avant, qu'à une certaine époque.
Et ils vivent en faisant de la scène.
Pas tous, c'est difficile.
Parce que pour faire de la scène, il faut d'abord passer en radio, faire de la télé, que le nom circule, soit connu.
Ouais, c'est un peu ça, c'est compliqué. Hein.
Depuis 4 ans, Pascal Obispo, vous peignez avec une ardeur, une intensité qui parfois vous surprend vous-même. La musique serait un art qui ne traduirait donc pas tout, forcément. Il y avait soudain envie de faire un pas de côté, d'autre chose, une autre forme d'expression.
Ah, c'est arrivé, ouais, vraiment par hasard, en fait. Comment vous expliquer? La musique, c'était pas suffisant. Alors, vous allez me dire, oui, je fais déjà beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai une énergie un peu débordante. Et c'est un petit peu dans la même idée. que cette peur de ne pas pouvoir avoir réalisé et créé toutes mes envies, qu'elles soient en musique ou ailleurs, j'ai besoin de créer. En fait, je suis incapable de rester sans créer quelque chose. Vous me laissez 2 jours, je vais passer 2 heures assis et ensuite je vais commencer à taper du doigt sur la table et il va falloir que je fasse quelque chose.
Alors, je reste sur la peinture.
Je suis un créateur.
Vous peignez dans quelle veine? Quels sont vos thèmes?
Moi, je fais du figuratif.
Oui.
Voilà, je fais beaucoup de visages.
Des visages?
Ben, en fait, je fais des visages, oui. C'est comme dans ma chambre d'adolescent, en fait. J'avais des photos de mes idoles et j'ai besoin d'avoir de la compagnie. Donc, c'est comme lorsque je compose, souvent, je laisse la télé ou l'écran. Même souvent, je le fais devant des matchs de sport, de foot ou n'importe quoi. Je baisse le son. J'ai besoin d'avoir de la vie, j'ai besoin de voir des visages. Et dans mes peintures, je pense que ce qui caractérise ce que je fais... et je le fais juste pour moi.
Il n'y aura jamais d'expo.
C'est sans doute, évidemment, il y en aura une, mais bon, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, ce qui caractérise, c'est vraiment cette accumulation de visages qui peuvent symboliser, je ne sais pas, le voyeurisme, tout ce... Ouais, qu'on peut être... comment dire ? Tout ce qui peut nous agresser un petit peu quand on est des personnes célèbres. Ou tout ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, cette espèce d'outrance, quoi, ce voyeurisme à outrance, je trouve ça tellement dérisoire. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me questionne en fait beaucoup. Je me pose beaucoup de questions, donc je dois le reproduire en peinture aussi.
Alors, ultime question, puisque vous nous confiez que la dernière partie de votre vie, vous voulez vraiment la consacrer à 360 degrés à la création sous toutes ses formes. Qu'est-ce que vous rêvez d'expérimenter, que vous n'avez pas encore expérimenté?
Et un truc que j'aurais aimé faire,
c'est...
qu'on m'a jamais proposé réellement, j'aurais aimé une fois. Pas 10.
Une fois.
Une fois, pas 10. Enfin, j'aurais aimé incarner un personnage au cinéma, mais pas Pascal Obispo. On m'a encore proposé l'autre jour de faire Pascal Obispo. Tu voulais faire Pascal Obispo. J'ai remercié gentiment. Je lui ai dit, excusez-moi, le mec qui arrive en Freddie Mercury, en jupe, pantalon, aiguille, sur scène avec des faux seins, une perruque, ou qui fait La Reine des Neiges à Bercy devant 17 000 personnes avec Michael Gregorio, ou dans un festival avec 30 000 spectateurs et j'arrive en Joker. Vous pensez sérieusement que j'ai envie de faire Pascal Obispo dans un film? Non. En fait, voilà, je pense que le dernier truc qui me ferait vraiment fantasmer, c'est d'incarner mais un vrai personnage, pas moi, un truc un peu, un mec, un déjanté, je crois. Je crois que c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas la technique de la comédie. Être comédien, c'est justement c'est faire croire qu'il n'y a rien alors qu'il y a un tout, c'est comme la musique.
Mais quand on a cette petite graine de folie en soi, quand même.
Ouais, mais pour moi,
cette
ça serait plus facile.
Un doux délire.
Ce serait plus facile pour moi si je devais incarner un truc, un personnage un peu bizarre, quoi. C'est voilà, un peu. J'allais dire un peu comme le Joker, mais bon, c'est voilà. Moi, je ne tue que par amour.
Voilà. Donc, j'imagine que un producteur de cinéma ou un cinéaste a entendu ces mots.
Ils sont tous en train d'écouter votre émission.
Bien évidemment. Que croyez-vous, cher Pascal, le nouvel album intitulé France vient de sortir. Album physique après 15 albums virtuels. Que la route soit belle.
En fait, on dit des albums digitaux.
Digitaux
parce que virtuel, on
ne
sait pas trop si...
Allez, on va dire digitaux.
Voilà. Des albums digitaux, ouais.
Voilà, mais on s'est compris.
En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et merci de travailler autant vos interviews parce que c'est toujours très... c'est toujours très délicat pour un artiste quand on est écouté, disséqué, si je peux me permettre le terme.
À bientôt.
À bientôt.